Je vais vous dire quelque chose. Les gens les plus heureux de Toulouse, vous savez où c'est qu'ils sont? Et je le pense. Ou alors peut-être c'est les plus beaux hôtels de Toulouse. Il y a des beaux hôtels à Toulouse. Vous le savez qu'il y a des beaux hôtels? 4 étoiles, 5 étoiles. Vous mangez à 250 euros par personne. Est-ce qu'ils ne seraient pas plus heureux que nous, les gens? Vous êtes sûr? Mais j'en suis certain que les gens les plus heureux, ce sont les gens qui sont dans la grâce du Seigneur. Gloire à Dieu. Alors nous allons voir une fois de plus que Dieu parle. Dieu parle. Comment Dieu parle, au fait? Et vous allez m'aider, tiens donc. Comment Dieu parle? Madame Blanc, attention. Hein. Elle parle beaucoup, Madame Blanc. Alors Dieu parle comment? Par des prophéties? Pas des prophéties. On en lit une. Par quoi Dieu vous a parlé? Une exhortation? Vous avez vu, Dieu a parlé à Timothée par le psaume 145, par une promesse. C'est une promesse. Dieu parle par des commandements, Dieu parle par des enseignements. Mais là, on va voir que vraiment Dieu parle par une prophétie. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, le Seigneur parle à l'Église. Il parle à l'Église, il parlait à ses contemporains, bien sûr. Mais en vérité, il parle à l'Église au siècle des siècles. Et il va dire quelque chose par rapport au jour où il va revenir. Vous le croyez qu'il va revenir? Il va revenir. Il l'a dit, les moqueurs, ils se gargarisent de dire « mais ça fait 2000 ans qu'on le raconte ». Oui, mais bientôt, ils vont se rendre compte qu'ils auraient mieux fait d'être sérieux. Matthieu 24, verset 36. « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Amen. Vous gardez ce passage et nous allons lire un texte sur Noé dans le Nouveau Testament d'abord, puisque Jésus nous parle de cet homme. Dans Hébreux chapitre 11, il nous est parlé de ce fameux croyant qui avait fait quelque chose pour sauver le monde. Hébreux chapitre 11, verset 7. Hébreux, chapitre 11, verset 7. Un homme qui avait été averti, comme nous pouvons l'être lorsque nous cherchons Dieu et sa parole. Hébreux, chapitre 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice, qui sortient par la foi. Donc d'un côté, il sauva sa famille, et de l'autre, par le fait qu'il construise l'arche, il a condamné le monde. Pour comprendre un peu mieux, nous allons dans le livre de la Genèse, au chapitre 6, où il nous est parlé justement de cette situation où la terre était remplie de méchanceté. Ça fait drôle, hein? La terre entière était remplie de méchanceté. Et Jésus dit que ça sera exactement pareil. Est-ce que vous croyez qu'il s'était trompé, le Seigneur? Est-ce que vous pensez que la terre est remplie de méchanceté? Et vous savez, on est loin de savoir tout ce qui se passe. Et heureusement d'ailleurs. Mais le peu qu'on sait suffit pour qu'on se rende compte que Dieu ne s'est pas trompé. Genèse chapitre 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le matin, ils se levaient, ils pensaient au mal. À midi, vous les auriez interrogés, ils pensaient au mal. Ils se couchaient le soir, ils pensaient toujours au mal. Terrible, hein? L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé dans son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra trois fils, Sem, Cham et Yafé. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. La suite, c'est l'instruction de Dieu pour qu'il construise une arche. J'aimerais quand même lire notre verset, un peu en avant, au Genèse chapitre 4, le verset 26. La fin du verset 26, moi c'est un verset qui m'a beaucoup interpellé. Parce qu'il est écrit quelque chose, la dernière phrase du verset 26, vous y êtes ? C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. La prière commença à cette époque-là. Les gens commençaient à prier. Mais à quoi ça leur a servi, franchement ? À quoi ça leur a servi de prier ? À quoi ? Ben à rien, puisqu'ils n'étaient pas prêts. C'est quand même écrit, on commençait à prier, les gens priaient. Je ne sais pas, ils avaient eu des témoignages et ils priaient. Mais vous avez vu comment la prière, ça peut ne servir à rien si on n'est pas sérieux. Donc Dieu a pu faire quelque chose de merveilleux, sauver le monde avec un homme, par un homme qui obéissait, dans un contexte vraiment compliqué. C'était compliqué la vie du temps de Noé, d'après vous ? Est-ce que c'était compliqué ? Il faut m'aider, hein ? Et à cause de cette communion que lui, parce que lui ne priait pas pour rien. Noé, quand il priait, il vraiment cherchait le Seigneur. Et comme il cherchait le Seigneur, eh bien le Seigneur s'est révélé à lui. Béni soit Dieu. C'est comme Anne et comment il s'appelait ? Siméon. Vous vous rappelez, dans l'évangile de Luc, il nous est dit que quand Marie et Joseph ont amené Jésus pour le présenter, ils ont su que c'était le Seigneur. Ils avaient été avertis par le Saint-Esprit que lui, en tous les cas Siméon, ne mourrait pas avant d'avoir vu le Sauveur du monde. Il avait été averti. Noé, lui, quand il priait, c'était de tout son cœur. Et il a cherché Dieu, et Dieu lui a dit, voilà ce qui va se passer. Alors que c'était quelque chose de terrible. Toute chair avait corrompu sa voix. Et Jésus est catégorique. Ce qui est arrivé du temps de Noé arrivera lorsque Jésus reviendra chercher l'Église. C'est écrit. Il faut être sérieux avec les prophéties. Il faut être sérieux avec les promesses. Il faut être sérieux avec les avertissements. Il faut être sérieux avec les enseignements, etc. Avec les sévérités et les consolations. Mais je crois qu'il faudrait que nous soyons très sérieux avec les prophéties. L'ambiance sur la terre. Tout le monde était corrompu dans la méchanceté, la violence. Ça fait peine de voir ça. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Alors, ça n'arrange rien. Vous parlez de Jésus, qu'est-ce que les gens y font ? Comment les gens réagissent quand vous leur parlez de Jésus ? Qu'est-ce qu'ils font quand vous parlez de Jésus, les gens ? Qu'est-ce qu'ils faisaient du temps de Noé ? Eh bien, ils se moquaient. Eh bien, les gens se moquent. Vous parlez de Jésus qui va revenir, même des croyants. La preuve, c'est qu'on commençait à prier. Les gens devaient se gargariser de dire, mais moi je prie. Mais ça n'a servi, je le répète, à rien. Parce qu'il faut plus que prier. En tous les cas, Dieu a voulu faire quelque chose d'extraordinaire, construire une arche. Il fallait penser à cette façon de faire. Ce qui a de la peine, ce qui fait vraiment de la peine, c'est que je ne sais pas combien de gens il y avait sur la terre. Bien sûr, il n'y a pas 7 milliards d'habitants, ni 200 millions sûrement. Mais quand même, tous ces gens se sont moqués de Dieu. Et j'imagine les gens pourraient faire un film. Je sais qu'il y a un film, mais je crois que ça n'a rien à voir avec... Je ne l'ai pas vu, moi, parce que ces choses-là, ça m'énerve. Mais je sais que ça doit avoir rien à voir avec ce qui s'est passé. Mais les gens devaient regarder, ils devaient parler ensemble. Quand ils entendaient les coups de marteau, ça y est, le toquet qui recommence. Ils devaient dire, parce qu'il y a d'en avoir des coups de marteau, non ? Est-ce qu'il en fallait des coups de marteau, monsieur Blanc, vous qui êtes un menuisier ? Oui ? Non, mais il en faut des coups de marteau pour construire une arche. Il y avait de la violence, la terre était pleine de violence. Et Noé avait décidé de marcher avec. Moi, j'aime ce texte. Noé trouva grâce. Noé marchait avec Dieu. Noé marchait avec Dieu dans son temps. Voilà une des bénédictions pour l'Église, de marcher avec Dieu dans le temps où nous sommes. Vous l'avez vu avec moi. Relisez-le. Genèse chapitre 6. C'est un verset extrêmement important pour la prédication de cet après-midi. Noé était juste et intègre dans son temps. Vous savez, il y a des gens qui se sont éloignés de Dieu parce qu'ils ont cherché des excuses. Ah, ils ont dit, moi si j'étais né dans une autre époque. si j'étais né, moi, du temps de Jésus, je serais resté fidèle. J'aurais été un bon chrétien. Oh, si j'étais célibataire, si ma femme ne cassait pas les pieds, je suis sûr que je serais un bon chrétien. Est-ce que vous l'avez jamais entendu, ça? Ah, si j'étais marié. Ah, si j'étais marié, je suis sûr. Mais je suis sûr qu'avec un compagnon ou une compagne à côté, je suis sûr que je serais un bon chrétien. Ah, si j'étais à la retraite. Ah, si j'étais à la retraite. Je suis sûr que je marcherais avec Dieu. Si toute ma famille était convertie, je suis sûr que je marcherais avec Dieu. Oh, moi, j'ai entendu tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Je veux vous dire, si vous ne marchez pas avec Dieu dans les circonstances où vous êtes aujourd'hui, vous ne marcherez jamais avec Dieu, quelles que soient les autres circonstances. Et on peut dire ce qu'on voudra, si j'avais une femme qui était bien. Je l'ai entendu, ça, moi. Ah, si ma femme, elle était bien. Ah, si mon mari, il était spirituel. Ah, quand j'aurai fini de payer ma maison, je viendrai à l'église. Les gens, ils ont fini de payer la maison. Et d'après vous, est-ce qu'ils sont venus à l'église? Alors, vous voyez, comment l'homme peut être anesthésié, comment l'homme peut être fermé, empêtré dans ces ténèbres. Mes frères et sœurs, ne dites pas à moi si j'avais vécu à telle époque. J'aurais été solide. Eh bien, soyez solide aujourd'hui. Alléluia. C'est aujourd'hui qu'il faut dire, mais moi aussi, dans mon temps, en 2015, je vais prendre la décision d'être solide avec le Seigneur. Ma femme, elle est comme elle est. Ma famille, elle n'est pas convertie. Ou toute ma famille est convertie. Je suis à la retraite ou je ne suis pas. Je vais marcher avec le Seigneur. Voilà. C'est ça l'évangélisation. C'est ça la parole de Dieu. Je veux marcher avec Dieu. Et ça a plu au Seigneur. À tel point que, parce que pour construire l'arche, ce n'était pas le problème des bois, des clous, etc. C'était de trouver un homme. C'est pas vrai? Pour Dieu, le problème, est-ce que c'était le bois, les clous, ou trouver un homme? C'est trouver un homme. Mais, mes frères et sœurs, pour sauver les gens autour de nous, le problème de Dieu, c'est de trouver une église. Alléluia. C'est pour ça que nous avons tout intérêt à être bouillants pour le Seigneur, afin que Dieu, dans chaque ville, puisse trouver des églises où il pourra amener des gens. Ça, c'est important. Circonstances bonnes, circonstances mauvaises, retraite ou pas, marcher avec le Seigneur. Corruption ou pas, parce que la corruption, ça ne va pas faire un... L'ONU nous promet que ça va s'arranger. Écoutez-moi bien. L'ONU ne changera rien du tout. Vous entendez des fois les grands de ce monde qui vous expliquent comment ça va s'arranger? Vous entendez des fois que ça va s'arranger? Écoutez, je ne veux pas être un prophète de malheur. Les choses, elles s'arrangeront que quand Jésus reviendra régner sur la terre. Tant que ça ne sera pas Jésus, ça sera la catastrophe. Noé, il marchait dans une crainte respectueuse. Voilà ce qui plaisait au Seigneur. Et vous savez, cet après-midi, c'est un choix qu'on peut faire. Seigneur, je veux marcher avec cette crainte. C'est un choix, la crainte, le respect de Dieu. C'est une bénédiction, le respect de Dieu. Vous voyez, Timothée parlait de sa vie, il a pris le baptême à 13 ans. 13 ans, qui c'était votre pasteur? On vous le présenterait. Mais on ne baptise pas quelqu'un à 13 ans, c'est trop tôt. Enfin, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui se convertissent à 13 ans, oui ou non? Jonathan, Lucas, oui, tu m'as demandé le baptême à 13 ans. Je t'ai baptisé, à quelle heure tu l'as pris? À quel âge tu l'as pris? Oui, tu m'as cassé les pieds pendant 2 ans. Si tu ne me baptises pas, ça vous l'effacerez. Si tu ne me baptises pas, j'irai me baptiser au minime. Si tu ne veux pas me baptiser. Ah, il est costaud, Lucas. Mais je pense quand même que pour être baptisé, que ce soit à 14 ans ou 16 ans ou 20 ans, il faut avoir la crainte de Dieu, le respect de Dieu. Aujourd'hui, ce qui fait beaucoup de défauts dans les églises et dans les foyers chrétiens, c'est qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Beaucoup de croyants croient en Dieu, mais ils ne respectent pas ce qui est écrit. Et cet après-midi, si nous sommes venus et si nous voulons être comme Noé, prêts, nous devons respecter ce qui est écrit, mes frères et sœurs. Vous savez, il y a un texte, je ne sais plus où c'est, je le mettais dans mes notes hier. Si je suis Dieu, dit le Seigneur, où est la crainte qui m'est due? Il pose la question. Si je suis Dieu, où est la crainte qui m'est due? Et je crois que quand on est chrétien, on doit avoir le respect des choses de Dieu. Lorsque le Seigneur agit dans un cœur, eh bien cette crainte, ce respect revient. Et Noé avait décidé. Pourtant, je peux vous dire qu'ils n'étaient pas nombreux. Quand Noé allait à la prière, il ne devait pas être nombreux à y aller. Il était tout seul. Voilà. Réunion de prière du temps de Noé, il n'y avait que Noé. Il aurait pu dire, mais non, mais moi je suis découragé. Oui ou non? Vous croyez qu'ils étaient nombreux? Vous allez me dire, mais qui vous dit qu'il y avait des rayons de prière? Écoutez, mes frères et sœurs, je crois que lorsque les chrétiens se rassemblent, ils prient ensemble. On aime prier ensemble. C'est vrai ou c'est pas vrai? En tous les cas, Noé, il a pris Dieu au sérieux. Et je voudrais vous encourager à prendre ces choses au sérieux. Pour construire une arche, il fallait quelqu'un de sérieux quand même, non? Non, est-ce qu'il fallait quelqu'un de sérieux pour construire l'arche? Eh oui, il fallait quelqu'un de sérieux. Noé a été averti. Est-ce que nous le sommes avertis, nous aussi? Quand on lit la Bible, si on lit la Bible vraiment, ce qu'on vient de lire tout à l'heure dans Matthieu, est-ce qu'on n'est pas averti, nous aussi? Ben si, mais on est vraiment, vraiment averti. Souvent, je pense, quand on prend la Sainte Cène, quand je prêche, je me dis, mais le Seigneur aurait pu nous laisser juste les quatre évangiles, sans les prophéties, quelques épîtres, une petite Bible, vous voyez, comme ça, sans prophétie. Vous allez me dire, oui, mais si manquaient les prophéties, on serait bien dans l'embarras. Eh oui. Vous vous rendez compte, toutes ces prophéties, pour nous permettre de développer cette crainte. Noé, il était attentif. S'il est dit que Noé a été averti, c'est pas parce qu'il était meilleur. Il avait choisi d'être attentif. D'ailleurs, il est dit plus loin, Genèse 6, 22, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Dieu a parlé avec Noé. Alléluia. Dieu, il veut parler avec vous. Dieu, il veut parler dans votre cœur. Lorsque vous vous mettez devant lui, il veut parler à votre cœur. Est-ce que vous croyez que Dieu peut parler par sa parole? Mais bien sûr, Dieu a parlé à Noé. Et Dieu, il veut te parler, peut-être te convaincre. Comme il a convaincu Timothée de péché, il dit, voilà, ça ne va pas, cette apparence de la piété, il fallait que ça change. Et par le psaume de 145, Dieu lui a parlé. Un verset qui nous touche, une promesse tout à nouveau qui s'impose à notre cœur. Oui, soyons attentifs, soyons respectueux. Donc Dieu a construit d'ailleurs commencé à construire son arche. Donc cette arche est devenue, c'est devenu un refuge, le refuge de sa vie. Alléluia. Ça devait être quelque chose. Quand il construisait, ça durait longtemps. Quand il construisait cette arche, il devait se dire quand même, quand ça va arriver cette affaire. Vous vous rendez compte? La terre allait être submergée par l'eau. Vous le croyez que ça s'est arrivé ou c'est des blagues? Ou c'est de la décompte? C'est arrivé. Et quand il a commencé à tac-tac, à taper, que les voisins commençaient à rigoler, lui disait, voilà, je vais être sauvé grâce à ce bateau. Il avait un refuge. Au fait, est-ce que vous avez un refuge? Est-ce que vous pouvez dire cet après-midi, oui, moi aussi, je suis à l'abri? Est-ce que le jugement va venir? Oui, il va venir. Est-ce que, on l'a chanté, de la croix à la grâce coule, c'est clair qu'on le chante souvent, c'est un très très beau cantique, mais quel est votre refuge? Parce que c'est bien de parler de Noé, de la crainte qu'il a eue, de cette communion avec Dieu, de la façon dont elle était sensible, etc. Mais bon, on ne va pas en parler de lui toute l'après-midi. Il faut qu'on parle de nous. Alors, quel est votre refuge cet après-midi? Vous qui êtes ici, est-ce que vous pouvez dire, oui, moi j'ai mon église, j'aime ma dénomination, bon, c'est bien. Mais est-ce que vous avez un refuge? Parce qu'il est dit, dans la Genèse que Dieu a fermé la porte. Est-ce que c'est écrit? Est-ce qu'il y a une prophétie dans le Nouveau Testament où il est dit que le maître de la maison se lèvera et fermera la porte? Elle est où cette prophétie? Jonathan. Tu es renvoyé, Jonathan. Luc, il est dit que le maître de la maison se lèvera et fermera la porte. Là, il est dit que Dieu a fermé la porte. Et Jésus va un jour fermer la porte. Dieu dira un jour, c'est terminé. C'est terminé, c'est fini. Le temps de la grâce est terminé. Je ne sais pas si les gens sont conscients de ça. Je ne sais pas si vous êtes tous engagés, si vous êtes tous accrochés au Seigneur, si vous êtes là, dans l'arche, en disant, moi, je ne sortirai pas. Parce que si un des fils de Noé avait voulu sortir, tiens donc, si un des fils de Noé avait dit, écoute, papa, écoute, c'est bien ton affaire, voilà. Mais moi, tous ces animaux, ça me fatigue. Est-ce qu'il aurait pu sortir? Est-ce qu'un des fils de Noé aurait pu sortir? Je lui dis, ben oui, on est toujours libre. Si quelqu'un veut rétrograder ce soir, est-ce qu'il est libre? Ben oui, on est toujours libre. On est toujours, toujours libre. Il y a plein de gens comme ça qui quittent le bateau, qui abandonnent Dieu. Ils sont attirés par-ci, attirés par-là, et le Seigneur les laissera. Mais quel est votre refuge? On a chanté des cantiques sur la croix. Le cantique pour un chrétien, c'est la croix. Alléluia. Regarde à la croix. Regarde à la croix, regarde Christ sur le bois élevé. Regarde là où coule le pardon. On a des cantiques comme ça s'appelait. C'est ça le refuge. Le Seigneur Jésus est mon refuge. Le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix pour qu'il soit notre refuge. C'est ça le refuge. Je regarde à la croix. Le seul refuge du chrétien, ce n'est pas son église, sa dénomination, et même le baptême. Regardez Timothée, combien de gens ont pris le baptême, ils ne se sont jamais convertis. Combien de gens ont pris le baptême, ils ne se sont jamais repentis. Oui, le refuge, c'est vraiment le sang de Jésus-Christ. C'est tout simple. Mais les gens, ils n'en veulent pas. Les gens, ils préféreraient payer. D'ailleurs, combien de gens en France ont payé, ont donné leur héritage après leur mort? Bon, c'est facile. Donner son héritage après sa mort, est-ce que c'est facile? Oh, vous prenez compte de ce qu'il a fait. Il avait 2 millions, il les a donnés après sa mort. Ben, c'est sûr. Mais donner 2 millions après sa mort, moi je veux dire, bon, ça ne me coûterait pas beaucoup. Hein. Franchement, est-ce que ça coûte beaucoup de donner des millions après sa mort? Non, c'est... Franchement, il avait 10 millions cet homme et il les a donnés à l'église. Oh, après sa mort, il aurait peut-être bien valu qu'il les donne avant. Mais même s'il les avait donnés avant, est-ce que ça aurait sauvé son âme? Non. Je me rappelle le pépé qui habitait en face. Hein. On n'a jamais été le voir parce qu'il avait 27 maisons. Il vivait comme un clodo. Comme un clodo. Et il avait 27 maisons. Il en avait plusieurs dans la rue. Et un jour, je vais le voir. À l'époque, on commençait à avoir des problèmes de place. Et j'ai écouté, monsieur Villèle, est-ce que vous pouvez nous vendre une maison en face de l'église? Ah, oui, monsieur Gauche. Mais je vous la donne. Non, j'ai écouté, est-ce que vous pouvez... Si je vous la donne, j'irai au ciel. Et je lui dis, mais non, pas parce que vous allez me donner la maison que vous allez aller au ciel. Mais si vous me la donnez, j'irai au ciel. Mais comment vous pouvez dire ça? Il me dit, oui, parce que les... Alors ça, vous l'effacerez s'il faut. Les petites sœurs des pauvres, elles m'ont dit que si je donnais les maisons à l'église, j'irai au ciel. Je dis, monsieur Villèle, vous n'irez pas au ciel parce que vous donnez une maison. Si vous voulez la donner, donnez-la. Mais ce n'est pas ça qui fera que vous allez aller au ciel. Et il en était persuadé. Il était persuadé qu'on pouvait être sauvé par les œuvres. Mais dès que je parlais de Jésus, il devenait furieux. Tant qu'on parlait de Dieu, dès que je parlais de Jésus, pourquoi? Eh bien parce que ça le confrontait à son péché. Tant qu'on parle de Dieu, on peut parler de la création, on peut parler des araignées, des insectes, des haricots, tout ça, ça va. Mais quand on parle de Jésus, on parle du péché, de notre péché. Et il devenait furieux. Et je pense qu'il n'est pas mort. J'espère qu'il a crié à Dieu quand même. Mais les gens préféreraient payer. Les gens préféreraient être sauvés par les œuvres. La Bible dit que ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par le sang de Jésus. Alors ce refuge, est-ce que vous l'avez? Puisqu'un jour, Dieu appellera tous les hommes en jugement. Tous. Est-ce que c'est écrit ça? Est-ce que c'est écrit, Jonathan? Que Dieu appellera tous les hommes en jugement. Où c'est que c'est écrit? Acte 17, c'est bien. Chacun se tiendra devant Dieu. Est-ce que vous savez que vous allez tous passer devant le Seigneur? Vous y pensez à ce moment? Moi, j'y pense tout le temps. Tout le temps que je passerai devant le Seigneur. Et l'apôtre Pierre nous dit que Noé était un prédicateur de la justice. La justice. Ah, est-ce que vous aimez la justice? Est-ce que vous aimez la justice? La justice. C'est quoi la justice? La justice, par exemple, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu manifesté par le bateau. Est-ce que l'amour de Dieu était manifesté par le bateau? Oui. Est-ce que la sévérité de Dieu était manifestée par le déluge? Oui. D'un côté, l'amour de Dieu, par le bateau, n'importe qui pouvait rentrer. De l'autre côté, la sévérité de Dieu, par le jugement. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. D'un côté, il y a l'amour de Dieu. Chaque prédication, c'est comme un petit coup de marteau. Chaque fois qu'il tapait dans le bateau, chaque fois qu'il tapait, les voisins l'entendaient. Ça rappelait quoi? Ça rappelait l'amour de Dieu, un bateau, et en même temps, ça rappelait que le jugement s'approchait. Chaque fois qu'une prédication est faite, comme cet après-midi, c'est exactement le même principe. Une prédication, ça rappelle quoi? Eh bien, l'amour de Dieu, que le Seigneur nous aime, que Dieu vous aime, qu'il veut vous sauver, qu'il vous faut être dans l'arche, qu'il ne vous faut pas attendre, sinon votre cœur s'endurcira. Et de l'autre côté, chaque prédication annonce la sévérité de Dieu. Dieu va venir, il va juger le monde, et c'est pour cela qu'il faut prier. Et Noé aimait prier. Il priait, les gens, oui. Ils priaient, mais ils n'avaient pas la crainte de Dieu et ils n'obéissaient pas à Dieu. Alors ne dites pas, c'est difficile, oh, moi, dans mon immeuble, je suis le seul chrétien. Eh bien alors, C'est, on me dit, oh, je suis malheureuse dans mon immeuble, je suis la seule chrétienne. Eh bien, ça fait rien. Ça fait rien. Est-ce qu'on peut plaire à Dieu même si on est le seul dans son immeuble? Est-ce qu'on peut plaire à Dieu même si on est le seul dans son quartier, dans son... Ben bien sûr, Noé, il avait pris cette décision. Et il est cité dans Hébreux chapitre 6 comme la foi qui construit. Mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus va bientôt revenir. Vous le croyez vraiment? Moi, je le crois. Il va bientôt revenir. Ne baissons pas les bras. Ne nous démobilisons pas. Au contraire, s'il revenait bientôt, est-ce que vous aimeriez pas que cet été on fasse tout pour gagner des âmes? Vous aimeriez pas qu'on gagne quelques âmes? Ah ben, si ça rentre au rythme déjà dans l'arche, on ne va pas en gagner beaucoup. Mais au moins, qu'on ait la joie d'avoir obéi au Seigneur. Vous comprenez ce que je veux dire? La joie d'avoir eu une belle arche, une belle église, je ne parle pas du local bien peint, bien climatisé, non, d'avoir un local, d'avoir une assemblée, d'avoir des frères, des sœurs qui veillent, qui prient, qui prêchent la parole, qui rappellent la justice de Dieu. Quelqu'un me disait dernièrement, oui, mais Dieu il n'est pas juste. Si le jugement il vient, ce n'est pas juste. Alors est-ce que c'est juste le jugement de Dieu? Mais bien sûr que c'est juste. Le péché nécessite le jugement. En tous les cas, ça va arriver. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes dans l'arche? Timothée, est-ce que tu étais prêt quand tu étais entre l'eau et... qu'on appelle ça, entre deux eaux? Est-ce que tu étais prêt? Voyez, on peut être à l'église, avoir pris le baptême et ne pas être prêt. Est-ce que vous pouvez dire cet après-midi, oui, je suis dans l'arche, je suis à l'abri du jugement, je suis couvert par le sang précieux. Je ne sais pas quand est-ce que la porte va se fermer, mais moi, quelque part, je vais dire un mot qui n'est pas juste, ça m'est égal, moi je suis dedans l'arche. Et j'attends le jour où l'arche va monter au ciel, aux noces de l'agneau. Mes frères et sœurs, ça va arriver. Ça va arriver. Et il faut que dans toutes les églises du monde, on entende ce message, ce qui est arrivé du temps de Noé arrivera de même. Alors vous savez ce qu'on va faire? On va fermer les yeux quelques instants. Et vous devez répondre, vous devez pouvoir dire, oui, Jésus est mon refuge, Jésus est mon sauveur. Je n'ai pas pris le baptême comme Timothée le disait, et voilà, et je vis comme les gens du monde. Non, je vis dans la crainte, je suis prêt, je suis intègre, j'aime la parole. Je veux être là, dans le refuge, de deux dans un lit. Un sera pris, l'autre laissé. Et oui, ce n'est pas parce que quelqu'un est proche de nous qu'il va être sauvé. On sera sauvé. C'est individuel, c'est ce que ça veut dire. C'est individuel le salut. Le salut, c'est Jésus est mon refuge. Non seulement je me baptise, mais je lui obéis. Alléluia. Seigneur, tu nous as laissé ta parole. Oui, tu as laissé ces centaines de prophéties pour nous indiquer comment les choses allaient se passer. Et si nous ne savons pas quand est-ce que tu reviendras, nous savons que tu vas revenir. Et si la terre est pleine de violence, si toute chair est en train de se corrompre, si les pensées du cœur des hommes se portent vers le mal, nous, Seigneur, nous voulons rester dans le refuge. Nous voulons rester à l'abri. Et nous voulons, comme Noé, être intègres, marcher dans la sainteté, avoir cette communion avec toi. Vraiment, Seigneur, être averti de ces choses qui vont arriver. Merci. Et je sais, Seigneur, que lorsqu'un homme lit ta parole et la médite, tu l'avertis. Alors, Seigneur, merci. Du fond du cœur, que ton nom soit béni. Oui, tu es notre refuge, Seigneur Jésus. Et nous sommes heureux de savoir que ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par ton sang que nous sommes sauvés. Parce que nous avons regardé au calvaire, regardé à la croix. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Que ton nom soit glorifié. Amen.